Monsieur Barrette, salut.
Bonjour.
Il y a beaucoup de questions, Dr. Barrette, de la situation dans les CHSLD. Qu'est-ce qui fait que les CHSLD, vous pensez, là, étaient moins préparés que les hôpitaux à affronter la tempête COVID?
D'abord, on ne peut pas nier le problème, là, il est réel. Et c'est vrai que toute l'attention qu'on a portée a été dans les hôpitaux sur la question des respirateurs, puis à l'autre extrême, parce que c'est comme ça, il faut le dire tel que c'est, là. À l'autre extrême, on a probablement porté un peu moins d'attention sur le CHSLD, alors que tout ce qu'on fait, c'est pas protéger ces gens vulnérables-là. Alors, la question ici n'est pas de faire un procès naturellement, juste de constater, puis de faire en sorte qu'on puisse virer les choses de bord.
OK, mais je pense qu'il faut expliquer la nature d'un CHSLD. Je veux dire, j'ai fait quelques appels tantôt, puis évidemment, là, j'ai écrit là-dessus dans le passé. C'est un endroit où on est en proximité forcée. Exactement. Avec les gens. Il y a des bénévoles qui y vont. Il y a du personnel qui se promène entre des gens puis qui peuvent être infectés, des gens qui ne le sont pas, etc. La dynamique, est-ce que c'est plus difficile à protéger comme établissement, comme milieu de vie qu'un hôpital?
Sur le plan de l'infection, la réponse est oui, pour les raisons que vous venez de dire. Puis je prends une image. Vous savez, quand on est couché dans un lit d'hôpital de soins aigus, là, pas un CHSLD, rarement l'infirmière va être obligée de vous enlacer pour vous aider à vous lever. Là.
Oui.
Alors que dans un CHSLD, c'est comme 100% des patients qu'on doit avoir ce contact-là étroit pour faire des choses simples comme se lever. Et là, on a ça plusieurs fois par jour. On a ça pour le repas, on a ça pour la toilette, on a ça à répétition. Vous l'avez dit, il y a un va-et-vient qui est moins contrôlé dans le sens où il y a beaucoup de bénévoles, puis on n'est pas dans un lançage de pierre, là, c'est pas ça du tout, là. Là, on est grand public, là, les bénévoles, là, je peux vous dire qu'il y a bien des CHSLD qui auraient de la difficulté à fonctionner sans les bénévoles. Le personnel qui change de direction. Bon, ça veut dire que dans cette circonstance-là physique, la question de la protection contre les infections peut poser un problème si c'est pas optimal. Et là, moi, je parle fondamentalement de formation et d'équipement. La formation, c'est-à-dire, voici comment on se protège pour les infections, voici comment on utilise le matériel, puis encore faut-il que le matériel soit là. Alors là, je parle de choses simples, blouse, masque, visière, gants. On ne parle pas de choses stériles, on parle de choses simples. Alors, dans un CHSLD, c'est un environnement qui est différent. N'importe qui a mis les pieds dans un CHSLD peut le voir. Alors, cette espèce de proximité-là perpétuelle dans un moment de COVID-19 où on devrait, au contraire, soit se distancier, ce qui est impossible en permanence, mais surtout se protéger de la bonne façon avec le matériel, bien là, il y a un problème. Ça, c'est clair.
OK. Vous avez été ministre de la Santé et évidemment, là, quand on regarde dans le rétroviseur, on est tous plus intelligents là, quand on a l'avantage de savoir ce qui va se passer dans le futur. On est des génies. Je veux dire, et on le voit un peu partout dans le monde. Je veux dire, maintenant, on se dit, hey, pourquoi on n'a pas stocké des millions de masques N95? Pourquoi on n'a pas plus de blouses, etc., etc.? De ce que vous connaissez du système, là, qu'est-ce qui aurait pu être fait dans le passé? Puis je ne parle pas juste sous votre mandat, là, avant, OK? Parce que je pense qu'on vit avec le système présentement là, qui est le résultat de décennies d'évolution. Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour que les CHSLD soient mieux protégés?
Ah, écoutez, c'est quand moi j'ai entendu, j'ai lu là, je pense que c'est Dr Lucie là, qui c'est son expression.
David Lucie, le gériatre.
Le gériatre là qui dit c'est l'angle mort. C'est l'angle mort du système. C'est toujours plus spectaculaire opérer quelqu'un à cœur ouvert que de s'occuper d'un CHSLD. Alors naturellement, l'attention s'en va sur l'hôpital. Alors, le CHSLD, lui, a pas toujours l'attention, je dirais, même budgétaire qu'elle devrait avoir. La question du personnel, c'est la question du personnel. Vous me parliez des stocks d'équipement. Ben moi, je peux vous dire une chose, ça prend toujours une crise pour qu'on décide de faire ça. Ça prend ça. Quand il y a eu le verglas, là, Il y a des plans là, de contingence, de sécurité civile. Il y a tout un plan qui a été mis en place pour que si ça se reproduit, on ne soit pas pris de court. Ça prend toujours une affaire de même. Sous moi, il y avait eu l'Ebola. Bon, mais après l'Ebola, là, on a mis en place une structure qui a été utilisée aujourd'hui de désignation d'hôpitaux en cas d'une maladie très contagieuse et ainsi de suite. Là, on a une crise pour laquelle personne n'est préparé en termes de stock d'équipement. Pourquoi? Parce que personne n'y croit. Alors, moi, je me mets à la situation d'un ministre de la Santé, moi ou un autre, là, peu importe, là, tous les ministres qui sont passés derrière, là, est-ce que le gouvernement, les gouvernements, je parle pas d'un gouvernement actuel, là, est-ce que les gouvernements ont cru qu'un jour il allait y avoir une pandémie, alors que, moi, ça fait 20 ans qu'on entend ça, là, des gens de santé publique, il va en avoir une, il va en avoir une, il va en avoir une. Puis elle arrive jamais. Et là, les gens se disent, ben, elle arrive pas, là, vous nous faites peur, puis ça arrive pas. Ben, là, elle est arrivée. Puis un ministre de la Santé, s'il veut faire du stock, là, Patrick, ben, il va falloir qu'il aille voir le président du Conseil du Trésor, puis as-tu une couple de centaines de millions à me donner pour que je stocke du matériel? Dans une année budgétaire plus difficile, la réponse risque d'être non. Alors, là, ça devient une question d'acceptation de la possibilité d'une situation dramatique et de se préparer. Et malheureusement, puis je m'inclus là-dedans, là, quand on regarde l'histoire passée, c'est après une crise que finalement on pose un geste, puis là on va en poser un.
Mais voyez, quand vous dites ça, il y a une ancienne ministre française qui s'appelle Roselyne Bachelot. Elle était ministre. Vous l'avez rencontrée?
Oui.
Bon, elle était ministre quand on a appris en France qu'il y avait, écoutez, je veux vous dire que c'est 1 milliard de masques là, de protection qui étaient stockés quelque part, ou en tout cas plusieurs centaines de millions. Écoutez, elle a été tournée en bourrique par ses adversaires politiques. Il y a un reportage célèbre à la télé française qu'on a ressorti où il y a une journaliste qui la confronte là-dessus parce que c'était considéré comme une idée stupide. Bien, la France a dilapidé son stock, sa réserve stratégique.
Alors, moi, là, il n'y a aucun doute dans mon esprit là, que parfois, pas toujours, mais parfois, la politique nuit à la santé. Ça, c'est mon opinion personnelle.
Mais là, il y a des gens qui vont jumper, là,
ben oui.
En vous entendant dire
non,
ça.
Non, mais
là.
Je veux dire, si vous avez un exemple parfait, là, vous avez un exemple parfait. Je l'ai connue, ma Roselyne Bachelot. Là. Je l'ai rencontrée, oui. J'ai participé à des conférences où on était tous les deux conférenciers en France. Et puis, c'est pas une imbécile, là. C'est une personne très responsable. Puis, elle a pris des décisions responsables. Et puis, ça a fini comme ça a fini. Là, c'est un bel exemple de politique qui amène une mauvaise décision. Alors, et ça prend une crise. Ça prend toujours une crise pour mettre en place un protocole. Mais ça a été comme ça à chaque fois.
Croyez-vous vraiment, Dr Barrette, qu'on va vraiment agir cette fois-ci? T'sais, parce que moi, j'ai aucun doute que, oui, on ne voudra pas revivre de situations là, où on va manquer de masques, puis de blouses, puis de respirateurs. Puis je suis convaincu que le prochain débat des chefs avant la campagne électorale, il va y avoir des questions précises là-dessus. C'est quoi vos plans pour les masques? C'est quoi en cas de prochaine pandémie? Mais est-ce qu'on aura la même acuité, la même agressivité au niveau de la défense des droits de nos aînés qui se retrouvent potentiellement dans des situations extrêmement délicates comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura la même volonté politique?
Il y a deux réponses à ça. Mais là, je vais vous dire que la politique peut aider la santé. Là, avec ça, c'est sûr que toutes les oppositions, là, nous autres y compris, là, on va arriver puis on va dire « l'avez-vous fait? » Mais si vous le faites pas, on va les accuser. Vous savez que ça peut revenir un autre vague. Puis ça va se faire, là, c'est sûr, parce que là, la politique va aller dans le bon sens. Maintenant, pour ce qui est de la question de ce qui doit être fait en CHSLD, là, il y a un enjeu de quantité de personnel, il y a un enjeu de formation du personnel et il y a un enjeu aussi d'équipement de protection individuelle. Vous savez, un CHSLD, là, c'est un milieu où tout n'est pas... on parle pas de la propreté des planchers, c'est un milieu où il y a beaucoup de sortes de choses, là, puis c'est normal. Alors, c'est un milieu différent. Les gens ont pas nécessairement la même attitude envers la protection des infections. Et je ne lance aucune pierre à personne. Il y a bien des gens là-dedans qui n'ont pas le matériel, qui n'ont pas la formation. Aujourd'hui, on parle de quoi? Écoutez, là, on parle d'envoyer des infirmières qui ont la compétence pour faire de la formation en protection contre les infections.
Dans les CHSLD?
Oui, ça dit tout. Ça veut dire qu'en temps normal, il n'y en a pas. Alors là, ça dit tout. Moi, j'ai parlé récemment au docteur Lucie, et je peux vous dire une affaire, là, c'est assez effrayant. Actuellement, là, depuis le début de la COVID qu'on vit actuellement, peut-être que tous les patients CHSLD devraient avoir un masque. Peut-être que le personnel devrait avoir un masque. Une personne, on en a parlé des masques sur la rue, là. On sait bien qu'on est moins contagieux lorsqu'on a un masque sur notre visage. Alors, là, il y a un enjeu. Puis là, on va nous répondre, le matériel n'est pas là. Puis c'est vrai. Ça fait que la formation n'est pas là, le matériel n'est pas là. Puis là, ça va finir par quoi? Un budget.
C'est ce qui ressort des témoignages du fameux CHSLD Sainte-Dorothée, Dr Barrette. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont demandé à être testés. Là, on leur disait, ben écoute, non, t'as pas tous les symptômes. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il manquait de réactifs. Fait que t'avais pas assez de matériel pour faire des tests, même affaire pour les masques.
Exactement. Et toute la politique, là, puis on le sait maintenant, ça a été dit, confirmé, donc on peut le relayer. Toute la politique de tests que l'on vit actuellement est liée à la pénurie de tests, à la trop petite quantité de tests. Le docteur Arruda l'a dit lui-même. OK, maintenant, là, on arrête de tester les voyageurs et on va tester le personnel parce qu'on est limité. Ce sont ces mots précisément. Dans une pandémie, normalement, on devrait tester, une expression en anglais, at large.
Tout le monde.
Et avoir certainement un focus particulier sur des voyageurs, sur le personnel.
Mais
sur
si on manque de tests, là, on dit, bon, on va tester les gens qui reviennent de voyage. On va tester leurs proches. Mais c'était une façon de rationner.
Non, c'est sûr. Et quand on a fait ça, c'était la bonne affaire à faire avec la quantité de tests que l'on avait. On voulait briser des chaînes de contagion, une personne étant une chaîne de contagion. On voulait casser la chaîne à cet endroit-là pour cette personne-là. Bien, ça, c'est quelque chose qu'on fait quand on rationne, comme vous venez de le dire. Bien, ça, là, je peux vous garantir qu'il y a bien des questions qui vont se poser. La première est, si on est pour avoir une deuxième vague là, et que les tests ont cette importance capitale-là, allez-vous acheter maintenant?
C'est une très bonne question, Philippe.
Ouais, dernière question, Dr Barrette. François Legault a dit aujourd'hui là, qu'il fallait conserver pendant des mois 2 mètres de distance. C'est possible, selon vous, rapidement?
Bien, des mois, hein, ça peut être juste deux. Plus qu'un, c'est un pluriel. Alors, là, il n'a pas précisé sa pensée, vous avez remarqué ça. Alors, par contre, pour moi, là, comme je le disais hier ou avant-hier, je pense que... ça, je ne l'ai pas dit, mais je vais attacher tout ça. L'économie ne peut pas arrêter éternellement. Les hôpitaux ne peuvent pas marcher en rythme actuel éternellement. Là. Il y a plein de monde qui doivent se faire opérer qui ne pourront pas attendre 6 mois. Là. On marche à un rythme inférieur au jour de Noël, et puis ça, c'est vraiment vrai là, ce que je vous dis. Alors, ne serait-ce que pour ces raisons-là, à un moment donné, il faut que ça reparte. Alors, je disais hier ou avant-hier, c'est le mois de mai là, qui est l'enjeu. En vrai, tout le monde a compris là, qu'il fallait continuer, on est encore dans le pic, peut-être pas rendu encore, et ainsi de suite. Alors, tout le monde comprend ça, puis je pense que le monde va toffer. Mais c'est comme un voyage, là, hein? Quand on va sur le bord de la mer, là, c'est juste quand on est rendu à la fin du voyage qu'on peut mettre les orteils dans l'eau. Bien, le mois de mai, là, il faut continuer jusqu'à la fin pour voir des chiffres soit très bas, soit à zéro pour le nombre de nouveaux cas. Si on fait ça, là, je viens de parler du mois de mai, bien là, mettons que progressivement on revient, bien là, on a le mois de juin. Et peut-être que là, le mois de juillet va être heureux ainsi que le mois d'août. Fait que dès mois, là, ça peut être avril, mai, juin. Mais là, je vous dis ça de même, là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais dans le scénario que je viens de vous dire, c'est un scénario plausible qui met les spots là, big time là, sur le mois de mai. Le mois de mai va être crucial. Et ça vous explique aussi pourquoi le tableau arrête au 30 avril. Ils ne peuvent pas faire un tableau pour après le mois de mai parce qu'ils ne savent pas comment on va se comporter. Alors, ils arrêtent au mois d'avril, entre autres, pour ça.
Très bien. On se reparle demain. Merci, Dr Barrette.
Merci. Bonne journée.
16h24. Au retour, on va parler d'un possible test de dépistage en 30 minutes ou moins pour la COVID-19.